commencer. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Alors, pardonnez-moi, je suis Camille de Villeneuve, j'enseigne la philosophie ici au Centre Sèvres et je n'ai pas de petit écriteau, c'est pourquoi je me permets de vous le signaler. Merci beaucoup de votre présence en ces temps difficiles, ces temps d'incertitude et, disons-le, d'angoisse pour évoquer un sujet lui aussi difficile. Le 24 novembre 2021, un bateau de migrants a fait naufrage dans la Manche alors qu'il tentait de rejoindre l'Angleterre. 27 personnes sont mortes, dont une petite fille. Seules 2 personnes ont survécu. Dans la nuit, un passager avait pourtant appelé les secours français à 18 reprises. Ceux-ci ont promis d'envoyer des secours, qu'ils n'ont en réalité jamais dépêchés. Ils ont en revanche alerté les secours anglais, pensant que le bateau, une fois dans les eaux britanniques, serait pris en charge, mais nul bateau anglais n'a été affrété. Un an après ces événements tragiques, Le Monde a révélé dans une enquête les échanges entre le bateau en détresse et l'opératrice du CROSS, acronyme pour le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Maritime, placé sous l'autorité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, et composé de militaires. Une phrase en particulier a été relevée par les journalistes et a ému l'opinion publique. Alors que l'opératrice transfère l'appel vers Douvres, la communication coupe et la femme prononce ces mots « Ah bah, t'entends pas, tu seras pas sauvé, j'ai les pieds dans l'eau, bah, je t'ai pas demandé de partir ». De cette phrase, Vincent Delecroix a fait un roman âpre qui nous rassemble ce soir, « Naufrage ». Un avertissement ouvre le livre. Ce roman est inspiré d'une histoire réelle dont la presse s'est fait l'écho. À l'exception des éléments connus et publics de ce fait divers, le texte qui suit est de pure fiction. Avant donc d'être le monologue d'une conscience brisée, celle de l'opératrice qui, après ces événements, doit répondre de ses mots, ce roman parle de la manière dont le fait divers hante nos consciences de citoyens informés et spectateurs des tragédies du monde, et peut-être réciproquement de la manière dont nous donnons ainsi forme aux faits divers et par la littérature. Nous sommes très heureux de vous recevoir, cher Vincent Delecroix, ce soir. C'est un privilège et un honneur. Ici, au Centre Sèvres, nous connaissons le spécialiste de Kierkegaard, ainsi que le directeur d'études à l'École pratique des hautes études, EPHE pour les intimes, où vous occupez la chaire de philosophie de la religion. Vous êtes l'auteur d'une œuvre philosophique importante, de votre essai sur Kierkegaard, Singulière philosophie, à votre magistrale introduction à la philosophie de la religion, dont le titre est « Ce n'est point ici le pays de la vérité ». Nous connaissons aussi, à Sèvres, le beau « Apocalypse du politique », que nous recommandons à nos étudiants. Mais aujourd'hui, c'est le romancier que nous accueillons, l'auteur d'une œuvre littéraire récompensée en 2009 par le Grand Prix de littérature de l'Académie française, et dont je ne citerai que quelques titres, « Ce qui est perdu »,« La chaussure sur le toit »,« Tombeau d'Achille »,« Ascension ». Je me permets d'ajouter, au risque de blesser votre humilité, que Naufrage a été sélectionné dans la première liste du prix Goncourt et que vous l'avez récemment présenté devant les jeunes jurés du prix Goncourt des lycéens. Au Centre Sèvres, où théologiens et philosophes essaient de donner du sens aux termes de salut et d'espérance, votre livre a suscité des débats, et je dirais des vrais débats. Véronique Albanel et Alain Thomasset ont accepté de s'entretenir avec vous ce soir et je les en remercie également très vivement. Véronique est professeure de philosophie politique, ici même, et maître de conférences à Sciences Po. Elle est également présidente de JRS France, JRS étant l'acronyme de Jesuit Refugee Service. Son quotidien consiste à interroger nos capacités d'action face à des demandes d'aide de plus en plus urgentes, venues de réfugiés de plus en plus nombreux. Véronique, tu nous proposeras ton regard de philosophe, mais également de femme engagée, sur Naufrage. Quant à Alain Thomasset, il est jésuite, professeur de théologie morale, spécialiste entre autres de Paul Ricoeur, et Alain, tu nous proposeras un éclairage théologique. Véronique et Alain, je vous propose donc d'intervenir chacun votre tour. Puis Vincent, vous pourrez réagir et la parole sera ensuite à la salle en invitant également ceux qui sont présents par Zoom, bien entendu. Un grand merci.
Merci Camille. Bonsoir à tous. Bonsoir Vincent Delcroix. Votre livre, Naufrage, est d'une actualité brûlante. Naufrage en Méditerranée, naufrage de civilisation et j'ajouterais civilisation occidentale tout particulièrement, naufrage de la conscience morale, naufrage de notre humanité. Le naufrage particulier que vous évoquez dans votre roman a fait la une des journaux. Il s'est déroulé, comme le disait Camille, en novembre 2021 dans la Manche. Après des heures d'appel au secours, plus précisément 14, peut-être 18, appels enregistrés au CROSS, donc ce centre de secours maritime pour la Manche Nord, 27 migrants sur 29 sont morts noyés. Cette tragédie migratoire est le point de départ de votre roman que vous faites précéder d'un avertissement que je vais donc relire parce qu'il me paraît important. Ce roman est inspiré d'une histoire réelle dont la presse s'est fait l'écho. À l'exception des éléments connus et publics de ce fait divers, le texte qui suit est une œuvre de pure fiction. Un mot d'abord sur le style. Je dirais qu'il est dérangeant, étonnant parfois, y compris sur un plan graphique. Alors, peut-être je ne lis pas assez de romans, mais je n'avais pas encore vu, en tout cas page 29 par exemple, vous mettez en évidence le fait pour la militaire d'avoir menti pendant près de 3 heures, et cela de manière graphique, très parlante. Le récit est glaçant, difficile, mais le sentiment du lecteur n'est rien si on imagine ne serait-ce que quelques secondes l'effroi, l'angoisse interminable qui précède le naufrage dans une mer glaciale, 10 degrés, dites-vous. Sur cette angoisse, sur les émotions des naufragés, y compris les plus jeunes, puisque la fillette a 10 ans, vous ne dites presque rien. Le choix est donc voulu de déranger votre lecteur, de le secouer de sa torpeur pour éveiller son attention, son sens des responsabilités. Autant le dire franchement, le récit met mal à l'aise, très mal à l'aise, et c'est sans doute délibéré de votre part. Nous ne sommes pas plongés dans un énième débat d'opinion pour ou contre les migrants. Aucune haine anti-migrant, aucune intention homicide, plus ou moins consciente, qui pourrait venir nous rassurer à peu de frais et satisfaire notre besoin d'explication. L'une des conclusions du livre est, me semble-t-il, j'espère ne pas me tromper, qu'il n'y a pas eu de volonté de laisser mourir. Et pourtant, ce constat rassurant, en apparence, ouvre un abîme plus dévastateur encore, comme l'attestent les phrases qui ouvrent votre roman et ceux qui le clôturent. Je vous lis quelques phrases du tout début, page 15. « Je ne t'ai pas demandé de partir, avais-je dit. » C'est donc l'opératrice, la gendarme opératrice qui parle. « C'est toi qui l'as voulu. Et si tu ne voulais pas te mouiller, mon coco, il ne fallait pas t'embarquer. » Je ne t'ai pas poussé à l'eau, et ce n'est pas moi non plus qui suis venue te chercher dans ton village ou dans ton champ, dans ta banlieue en ruine, pour t'arracher de là et te mettre dans ton foutu bateau qui prend l'eau. Et maintenant, tu patauges, et je veux bien croire que tu as peur, et tu m'appelles à l'aide comme si c'était de ma faute, tu me demandes de te sauver et tu t'impatientes. » La fin du livre me paraît plus désespérée encore. Je vous lis quelques pages. On aurait voulu que je dise « Tu ne mourras pas, je te sauverai ». C'était ça qu'attendait l'enquêtrice avec anxiété, qu'on entende, que tout le monde entende sa propre voix dans la mienne, dans ses enregistrements, la voix de chacun disant « Je te sauverai ». Chacun à ma place. La voix de l'humanité tout entière, se rassurant elle-même de s'entendre dire, prononcer « Je te sauverai, tu ne mourras pas » et, peu importe le résultat, pas même efficace, pas même secourable, mais au moins disant cela, parce que cette parole-là, c'est la limite en deçà de laquelle on n'est plus humain. Mais moi j'ai dit, tu ne seras pas sauvé. Or, effectivement, Camille le rappelait, nous savons par les médias que l'opératrice a bien dit en aparté ces mots terribles, tu ne seras pas sauvé. Nous pourrions nous dire, c'est un cas simple de non-assistance à personne en danger, une erreur de casting dans le recrutement de cette gendarmette du Pas-de-Calais, et fort de ce constat, nous pourrions dormir à nouveau sur nos deux oreilles. Nous pourrions aussi retenir l'explication avancée par le directeur du service de gendarmerie, mauvais état d'esprit dans l'équipe qui met en cause notamment Julien, l'un des gendarmes impliqués cette nuit-là. Mais, intentionnellement, je pense, et encore une fois j'espère ne pas me tromper, le livre refuse de circonscrire le mal à une personne ou à une équipe, même cynique. C'est en cela que le roman est dérangeant, cathartique peut-être. La femme gendarme, qui n'a pas de nom dans le roman, et qui est bien réelle, nous le savons, la femme gendarme des secours maritimes n'entre dans aucune case d'explication rassurante. Absence d'empathie, détachement étonnant, somnambulisme moral, erreur de jugement, mauvaise évaluation de la situation, toutes ces éventualités sont envisagées par l'enquêtrice du roman. La femme gendarme, et je rappelle qu'elle est officier, pour ceux qui connaissent un peu l'armée, ils savent quand même qu'un officier est entraîné à la responsabilité, au commandement. Cette femme gendarme dit dans votre roman faire son métier, sans opinion et sans état d'âme. Elle ne ressent en apparence aucune culpabilité, aucun regret. Plus grave encore, elle refuse toute responsabilité à propos de ce naufrage. La seule explication ou prétexte qu'elle donne est le fait que l'embarcation dérivait vers les eaux territoriales anglaises et qu'il y a une convention franco-britannique qui oblige chacune des parties à intervenir immédiatement lorsqu'il y a urgence, à porter secours donc. Si ce n'est pas un cas de non-assistance à personne en danger, s'agit-il d'un cas illustrant la mondialisation de l'indifférence, la perte du don des larmes? Peut-être, puisque les larmes semblent réservées exclusivement au cercle familial de cette femme gendarme. Léa, la petite fille de la gendarme qui a 6 ans, Eric, le père de Léa, dont la gendarme est séparée, qui est, dit-elle, raciste et anti-migrant, eux, en tout cas, ont des prénoms, des émotions, une consistance humaine pour le lecteur. Quelqu'un se soucie d'eux quelque part. Les 27 naufragés, pour leur part, sont privés de noms. Qui les pleurera, dirait Judith Butler dans un magnifique petit livre où elle dit justement qu'une vie invivable, c'est une vie qui n'est pas digne d'être pleurée. Nous ne connaîtrons de ces naufragés que leur appel au secours et notamment la voix d'un des naufragés suppliant « Please, please » et les cris derrière en provenance de l'embarcation. On voudrait comprendre, on voudrait consoler. Et j'avoue, mais là je m'implique, je voudrais les consoler tous, même la gendarme qui, j'espère, ne lira jamais votre livre. Elle pourrait se suicider et j'ai envie de vous poser la question, y avez-vous pensé? On voudrait pouvoir pleurer, les morts, tous les morts, et les vivants que nous sommes encore. Car au cœur de votre roman, c'est bien la question de l'empathie qui est posée. Sommes-nous condamnés à être, comme le disait tout récemment Delphine Horviller, enfermés dans un entre-soi d'empathie sélective? L'empathie est-elle, comme le soutient la gendarme dans le roman, vous le dites en tout cas dans ce roman, une crétinerie luxueuse qui se paie, que se paient ceux qui ne font rien et qui s'émeuvent au spectacle de la souffrance? Cette question de l'empathie me semble-t-il, est redoutable, tout comme celle de l'imagination. Car il nous faut bien reconnaître la pertinence de l'objection de la gendarme lorsqu'elle affirme « Au début, je la cite donc, « au début j'avais trop d'imagination ». Et si on a de l'imagination, on est perdu. C'est toute la misère du monde qui dégringole sur vous, ça mange les nuits. Soyons honnêtes, peut-on faire ce métier de secours maritime lorsque les naufrages se répètent chaque nuit, nombreux, si l'on a des états d'âme, une sensibilité morale aiguisée, une imagination développée? Au-delà de l'empathie, c'est surtout de tragédie dont il est question ici. Impossible de le nier. Il y a ce message terrifiant, répété cette nuit-là à 2h05, 2h36, 3h12, 4h22, sous des allures rassurantes. Calmez-vous, les secours arrivent. S'agit-il vraiment d'un mensonge délibéré? N'est-ce pas davantage une fuite en avant dans l'exaspération, l'épuisement, l'impuissance, l'évasion hors du réel? Naufrage nous plonge résolument dans la tragédie parce que votre roman refuse de se centrer sur la faute d'une personne isolée. Si tel était le cas, ne serait-ce qu'une possibilité de lecture ou une tentation offerte au lecteur, je le dis radicalement, peut-être parce que j'ai été juge, cela me paraîtrait profondément injuste. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous ériger en juge de cette femme gendarme. La justice est une affaire bien trop sérieuse. Nous le savons d'ailleurs, 7 militaires ont été mis en examen dans cette affaire, ainsi que 10 passeurs présumés. En réalité, et je crois que c'est la thèse de votre roman, c'est toute une chaîne de responsabilités qui remonte peut-être jusqu'à nous et nous interpelle sur le manque de moyens accordés au sauvetage, sur cette impasse que constituent les campements du Nord et de Calais, impasse interminable et qui dure depuis tellement longtemps, même si on ne l'appelle plus la jungle de Calais. Enfin, impasse sur cette prise de risque toujours plus grande, car les responsables d'associations ne cessent de le répéter, ils finissent tous par passer. Écrivez-vous ici un nouvel épisode de la banalité du mal, vous citez d'ailleurs Eichmann, page 49, et ajoutez un peu plus loin cette description minutieuse, retransmise donc toujours par la gendarme. J'étais un tout petit rouage dans la machine, peut-être même une victime moi-même de cette machine qui finit par oublier complètement l'humain, ou plutôt un produit de cette machine qui produit mécaniquement de l'inhumain. En réalité, sauf erreur de ma part, c'est bien la responsabilité de tout le monde que vous convoquez. Nous tous, qui restons, dites-vous, des spectateurs aveugles, assis sur leur canapé, en laissant les SDF au pied de notre immeuble, ramer sur le bitume et se noyer. Nous comprenons avec horreur que rien, en tout cas, je n'ai pas vu ce qui pouvait nous sauver de ce naufrage. Rien ne peut apparemment nous sauver de ce naufrage. Il n'y a plus en tout cas de bouc émissaire ici, ni les migrants, ni les gendarmes. Il ne suffit pas d'exclure définitivement les uns pour retrouver la paix. Certains seront peut-être tentés de crier comme en mai 1968, gendarmes ou CRS, SS. D'autres, plus nombreux encore, hurlent déjà « migrants dehors », histoire de rêver à une issue imaginaire rapide. Mais justement, la force tragique de votre roman, c'est de nous dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, pas d'issue dans ce naufrage, cette plongée sans fin dans l'abîme illustrée par le cynisme de certaines répliques. L'humour y est sarcastique, caustique, glaçant. Je ne ferai que 2 citations, donc l'une répétée 2 fois de Pascal, selon lequel tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Appliquée aux exilés privés de tout, de toi, de terre et de travail. En espagnol, techo, tierra y trabajo, comme le dit le pape François, les trois T. J'avoue qu'on reste sans voix, ou encore, page 69, cette définition du spécimen de l'inhumanité imbécile qui, sans le savoir, préfère la destruction du monde à son ongle ébréché. Trois thèmes majeurs donc pour résumer. L'empathie, la tragédie et pour finir, le salut. Salut, avec un T bien sûr, salut de chacun et de tous, salut de tout le monde, formule qui revient comme un leitmotiv. Je retiendrai pour conclure la résonance de la voix du migrant avant de sombrer ce soir-là. Please, please. Cette voix bien réelle d'un naufragé est la résonance de notre fragile humanité, comme le dit si bien Jean-Louis Chrétien dans son livre « Fragilité ». Je le cite. « La voix fait entendre les émotions mêmes que nous voudrions cacher. Et une voix inaltérable et toujours sûre d'elle nous indispose parce qu'elle a d'oratoire et de mécanique. » Et Jean-Louis Chrétien poursuit un peu plus loin. Cette fragilité de la voix forme la résonance de la fragilité de la condition humaine, nous mettant en jeu tout entier, corps et âme. Je crois comme lui que la voix humaine, seule survivance peut-être de notre humanité, s'est brisée ce soir-là de novembre 2021, comme elle se brise à chaque naufrage, à chaque guerre ou acte de barbarie. Et pourtant, seule notre voix accordée à nos actes, seule notre parole, habitée en vérité, peut encore nous sauver. À condition de nous souvenir de la mise en garde d'Albert Camus, que je cite, « Nos paroles nous engagent et nous devons leur être fidèles. Mal nommer un objet s'est ajouté au malheur de ce monde. » Et justement, poursuit-il, la grande misère humaine, c'est le mensonge. Le miracle consiste à revenir aux mots de tout le monde, mais en y apportant l'honnêteté qu'il faut afin de diminuer la part du mensonge et de la haine. Quelques questions pour finir. Pourquoi et comment avez-vous décidé d'écrire Naufrage ? Dans quel état d'esprit l'avez-vous écrit ? En êtes-vous sorti indemne ? Et puis j'ajouterai une peut-être plus importante pour moi personnellement. La philosophie, et c'est toujours dans le livre de Jean-Louis Chrétien qui nous le précise, une certaine philosophie de Kierkegaard, que vous connaissez bien, pratique volontiers, pour parvenir à la consolation, de nous plonger dans une effroyable désolation. La vraie consolation, dit Jean-Louis Chrétien, commence par désoler, c'est-à-dire par mettre en relief la gravité du mal dont il s'agit de nous délivrer. Et juste après, il parle du naufragé qui, dépouillé de tout sur une rive inconnue sans savoir pourquoi c'est lui plutôt qu'un autre qui a échappé à la noyade, et il va citer Pascal en disant que comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen de s'en sortir, voilà. Qu'est-ce qu'il peut devenir avant de mourir ? Alors voilà, moi je serais très heureuse que vous nous consoliez un peu parce que je n'ai pas vu beaucoup de traces de consolation dans votre livre. Merci.
Merci beaucoup pour cette...
Merci beaucoup, merci. On pourra poser toutes les questions après l'intervention d'Alain
et celle de Vincent. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette lecture formidable qui m'intimide beaucoup de vous parler ici. J'ai pas vraiment l'habitude de, Voilà, de parler de mes romans, c'est très intimidant, encore plus avec ce que vous venez de dire, mais votre lecture est tellement riche que elle m'incite à revenir sur un certain nombre de choses que vous avez indiquées qui me font très plaisir à entendre concernant mon travail d'écriture. Et peut-être que je vais repartir des quelques questions un peu de manière rétrograde, des quelques questions par lesquelles vous avez conclu cette lecture, et puis on verra comment on se débrouille.
Tu préfères réagir maintenant parce que ou on écoute Alain?
C'est comme vous voulez. C'est comme vous
estimez. Ça vous va si on fait comme ça? Ouais. Peut-être Alain.
D'accord.
Merci.
Bon, en tout cas, j'ai tout noté.
Voilà,
Je ne l'oublierai pas.
Donc, Alain, merci.
Voilà. Je me suis en fait attaché à la figure de cette femme que vous décrivez dans votre livre, à ce que son expérience dit de l'humanité. Ça va rejoindre en partie ce que dit Véronique, évidemment. Ce que dit de l'humanité sur sa responsabilité, mais aussi peut-être et surtout dans sa solitude et son tourment. C'est l'aspect éthique, je dirais même spirituel, voire métaphysique de ce récit qui m'a retenu. Et pour le moraliste que je suis, ce livre, à travers le soliloque de cette opératrice anonyme, dresse une superbe galerie des portraits de la conscience malheureuse de l'humanité. J'ai pensé à Crime et châtiment de Dostoïevski, dont on sait qu'il a inspiré Nietzsche, et où le héros Raskolnikov se dépeint dans les méandres d'une conscience blessée et douloureuse, coupable d'avoir tué une vieille dame et sa sœur. Certes, l'opératrice des secours en mer n'est pas une criminelle et ne se prend pas pour un monstre, mais c'est précisément ce qu'on aimerait faire d'elle pour se dédouaner du drame collectif du naufrage. Et d'une certaine façon, le livre, comme Crime et châtiment, exerce une impression d'étouffement. Mais là s'arrête la comparaison, car Naufrage ne décrit que le naufrage, la noyade et pas la rédemption. Il n'y a pas de dounia, ni aucun personnage pour sauver l'opératrice. Personne ne sera sauvé. L'opératrice du centre de secours, qui est au centre de ce livre, raconte seule son histoire. Elle narre toute seule la discussion qu'elle a avec la capitaine de gendarmerie, qui l'interroge, pour découvrir où se situe la défaillance ou la négligence qui a causé la mort de 27 migrants. Mais d'une certaine façon, et vous nous le faites comprendre, c'est avec elle-même qu'elle parle. Et la fin du livre laisse à entendre qu'en réalité, elle ne l'a sans doute jamais rencontrée. Tout semble se passer dans l'imaginaire, dans la rumination intérieure de ce que le monde projette autour d'elle et sur elle. En ce sens, elle est bien une porte-parole, un témoin, une voix qui parle pour tous et pour chacun. On l'accuse d'ailleurs pour ce qu'elle a dit et non pas tellement pour ce qu'elle a fait. Je pensais à la chanson de Guy Béard, « Le témoin qui dit la vérité, il doit être exécuté ». Cette vérité trop dure à entendre et qui mérite d'être sacrifiée, c'est celle qui nous concerne tous. Et elle dit d'ailleurs plusieurs fois qu'elle est comme Madame Tout-le-Monde, et la gendarme qui l'interroge et l'accuse ou essaye sans succès d'être compatissante lui ressemble. Elle finit par dire, je cite, « Je devrais me rendre à l'évidence, ce n'était pas elle qui parlait, c'était moi. » Et lorsqu'elle crie face à la mer pour dire sa colère, elle dit « Il y a le monde entier derrière moi, sur le rivage. » Cette voix, c'est la voix de tout le monde, une voix qu'on ne veut pas entendre. On aurait voulu qu'elle dise qu'il soit sauvé, que l'humanité se rassure en entendant cette voix, pour que l'humanité elle-même soit sauvée. Mais elle avait dit l'inverse, qui était la vérité, « Tu ne seras pas sauvé ». Elle rajoute alors, « C'est comme si cette phrase, je l'entendais pour moi-même ». Ce dialogue que l'opératrice a avec elle-même, c'est un dialogue de conscience. Et même si elle s'en défend, un dialogue avec sa conscience morale. Or, la conscience possède cette particularité d'être habitée par une altérité. Une voix parle en moi, un dialogue s'instaure avec quelque chose qui me dépasse, qui vient de plus loin que moi. Et cette altérité peut prendre bien des visages. Une autre personne, la société, la voix des ancêtres, un idéal, une cause ou Dieu. Une instance en tout cas qui, au-delà de moi, peut me juger ou me féliciter, m'enfoncer ou m'encourager. Pour l'opératrice, cette instance autre a pris d'abord la figure de cette gendarme. Visage de la loi, visage de la société qui enquête. Elle prend ensuite la figure de ces migrants dont la deuxième partie du livre raconte la triste agonie, mais à la troisième personne, de manière presque objective. Le ton change. Est-ce encore elle qui s'imagine, qui se représente la scène, ou est-ce une description ? Je ne sais pas. Altérité, enfin, que la troisième partie du livre montre dans la figure des migrants sauvés ou noyés, venant à sa rencontre sur la plage. Visage des victimes, cette fois-ci. Mais à chaque fois, me semble-t-il, peut-être me trompais-je, cette altérité reste imaginaire, comme le reflet d'une conscience qui tourne sur elle-même sans vis-à-vis. D'ailleurs, personne ne lui parle vraiment. Aucun dialogue n'est vraiment rapporté dans ce livre. C'est toujours elle qui parle. L'opératrice reste seule, l'altérité s'échappe, elle est absente. Ce dialogue avec elle-même prend plusieurs motifs, plusieurs portraits qui sont autant de miroirs de nos consciences troublées. Il se manifeste dans un effort de justification ou de compréhension, mais aussi dans un sentiment de culpabilité, d'accusation, ou encore d'interrogation sur sa propre moralité, et finalement un doute sur sa propre humanité. Je passe en revue les différents portraits. On lui reproche... Elle se reproche, devrais-je dire, la dureté de ses paroles, son manque d'empathie, de compassion face au drame. « Je ne t'ai pas demandé de partir », avait-elle dit, excédée par les appels répétés au secours, comme si elle était responsable de ce qui arrivait. Et dans son fort intérieur, elle avait répondu que l'empathie, c'était une faute dans ce travail. Véronique l'a déjà cité. « Une crétiderie luxueuse de ceux qui ne font rien. Je ne veux rien avoir à faire avec leur vie singulière. » Je n'ai affaire qu'à la vie toute nue. La vie toute nue. Pleurer avec eux sur leur malheur, dit-elle, voilà surtout ce qu'il ne faut pas faire si on veut organiser les secours, déployer les moyens disponibles au mieux des besoins du moment, alors qu'il y a 40 embarcations chaque nuit sur la mer. L'initiative, le jugement, la prévision sont nécessaires et un certain détachement affectif sur tel ou tel groupe lorsqu'il s'agit d'en sauver le plus grand nombre. Mais c'est précisément cette place de celle qui doit décider, choisir, trier, que nous sommes heureux de ne pas tenir. Qui s'est jeté à l'eau pour les sauver, se demande-t-elle. L'opératrice renvoie au monde la figure de ce qu'elle ne veut pas voir. Autre aspect, on lui reproche, elle se reproche, un détachement, ne pas avoir pris la mesure de la situation, ne pas s'être bien représenté le drame en jeu. Mais c'est précisément ce qu'on sa travail lui demande, dit-elle. Une certaine objectivité froide qui ne s'encombre pas de sentiments ou d'imagination pour être efficace. Alors est-elle la représentante parfaite d'une bureaucratie froide et indifférente, ou bien sa victime, contrainte par des règles et des lois qui font arrêter le jugement et les secours aux frontières des eaux territoriales anglaises. Complice ou victime d'une machine qui oublie l'humain, qui fabrique de l'inhumain. À moins qu'elle soit une exécutrice sans conscience, sans boussole, qui a laissé son humanité au vestiaire, voire est habitée d'une intention maligne. Toutes ces figures apparaissent. L'indifférence froide n'est-elle pas celle de l'humanité qui assiste au théâtre de son propre malheur devant les écrans de télé, alors que elle est au premier rang tous les soirs? Et cette lassitude qu'elle finit par reconnaître n'est-elle pas la nôtre devant tant de malheurs que les écrans déversent? Cette barrière qu'on place pour ne pas entendre la voix des migrants, qui sont, dit-elle, comme le chant des sirènes qui nous entraîne vers le fond. Autre aspect, on l'accuse, elle s'accuse, ou on voudrait faire d'elle un monstre, un être déshumanisé, insensible, un Eichmann, comme l'a rappelé Véronique, qui pourtant, comme elle, aimait sa famille, faisait son boulot consciencieusement et écoutait du Schubert. Un monstre ordinaire, enfanté par la vie ordinaire. Un produit de la banalité du mal, aurait dit Hannah Arendt. Autre figure. On lui reproche, elle se reproche, une distraction inexplicable, une absence de perception de la réalité, un manque de prise au sérieux du drame. Mais qu'est-ce que la réalité ? Cette distraction n'était pas le fait d'une vie singulière dont les soucis expliqueraient tout par une pseudo-explication psychologique. N'est-ce pas plutôt une distraction propre à la culture ambiante qui ne sait plus, suggère-t-elle, distinguer la réalité de ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux ou la télé-réalité fabriquée ? Une distraction si universellement partagée, si commune. On lui reproche, elle se reproche finalement, d'avoir un comportement suicidaire dans ses réponses. Soit en essayant de se soustraire à sa responsabilité par détachement ou en accusant les autres, soit en se mettant toute la faute sur le dos. Et finalement, dit-elle, on n'arrive jamais à dire autre chose que « je suis coupable », soit qu'on refuse de le dire, soit qu'on s'y efforce au contraire. Quelle que soit la manière dont on le prend, il n'y a pas d'innocent. Le raisonnement est circulaire. Un cercle qui en dit long sur l'enfermement de la pensée et sur la logique mortifère de l'accusation, qui tient à distance la responsabilité de chacun pour mieux accuser la lampiste de service. Cette pénible ressemblance avec cette gendarme, pour elle, reflet probable de sa propre conscience, elle dit « Je ne pouvais pas ne pas avoir l'impression que c'était moi-même qui occupais cette place de juge des enfers et qui me convoquait moi-même à la pesée des âmes ou à je ne sais quel examen final devant la porte de Saint-Pierre avant qu'on m'indique ou que je m'indique moi-même la direction du sous-sol. Le naufrage est en route. » J'y vois le drame d'une conscience solitaire, d'une humanité laissée à elle-même. Comme il a été montré, la voix de l'opératrice, c'est celle de tout le monde. Ses tourments sont ceux de l'humanité entière. Quelle posture prendre entre l'efficacité de l'action à mener qui doit éliminer la compassion et le désir de ne pas se déshumaniser ? C'est aujourd'hui le dilemme des infirmières, des médecins, des travailleurs sociaux. Est-ce que la compassion est vraiment nuisible ? Comment résister à la tentation de faire reporter la responsabilité sur l'état du monde, la fatalité du malheur, la vague de fond qui les a obligés à partir, dit-elle, ou encore sur ceux qui sont en charge du sauvetage ? Pourquoi est-ce à moi qu'on demande des comptes ? Ou encore sur ceux qui prennent le risque insensé de traverser la mer alors que c'est très dangereux ? Pourquoi s'en occuper ? Je ne leur ai pas demandé de partir, qu'ils se débrouillent. Comment, en fin de compte, éviter la culpabilité de se sentir responsable de tout et de tous, jusqu'à soi-même sombrer dans l'auto-accusation et le désespoir, ce que laisse supposer le naufrage qui est finalement celui de cette femme. Quelle alternative choisissons-nous ? La froideur bureaucratique, l'indifférence lointaine, l'accusation xénophobe, la culpabilisation morbide, le divertissement pascalien ? Entre ces alternatives, y a-t-il un autre chemin ? Le livre semble très sombre, à l'image de la nuit où le drame se joue. En fin de compte, ce livre, ou plutôt l'opératrice, fait en fin de compte le procès de l'humanité. Une humanité indifférente, spectatrice à distance, ou une humanité à la mauvaise conscience, et qui donc cherche des coupables pour se dédouaner. Naufrage d'une conscience solitaire, sans personne à qui parler, repliée sur sa faute. Naufrage d'une humanité coupable d'une façon, de toute façon, par indifférence ou par complicité. Naufrage d'une conscience illusionnée, par détachement, par obéissance aveugle, par conformisme, ou d'une conscience qui s'accuse, par manque de compassion, d'humanité, de morale, et qui s'enferme en elle-même. Dans cette vision de l'humanité, il n'y a pas de place pour la compassion véritable. Non pas celle qui s'apitoie, qu'elle rejette, mais celle qui relève, accompagne, agit. Il n'y a pas de place pour le pardon. Pas de place pour une humanité sauvée de sa culpabilité ou de son indifférence, pour reconnaître qu'elle peut agir à sa juste place en reconnaissant ses erreurs. à moins que, précisément, tout cela ne soit dessiné en creux par le miroir du naufrage que ce monologue met en face de toutes ces figures de la conscience. À moins qu'il ne s'agisse du regard lucide d'une humanité prise dans le drame de sa misère, comme dirait Pascal, prise dans le mystère du mal, même en dépit de ce que Vassili Gossman appelait la petite bonté ordinaire, d'une mère qui aime sa fille, d'un père qui admire que sa fille sauve des gens, d'une opératrice qui essaye de faire son travail avec rigueur. Un appel à la conscience d'une humanité qui ne sait pas rester dans sa chambre, certes, pour méditer sur l'essentiel des causes de ses naufrages, mais qui se perd dans les distractions de la vie et le spectacle à distance. Bref, ce livre est comme un cri qui appelle le salut. Qui entendra cet appel ? Oserais-je dire naufrage d'une humanité sans Dieu ? En tout cas, d'une humanité sans vis-à-vis, sans transcendance, sans référence ultime pour aider chacun à se situer dans le grand combat spirituel du moment et trouver sa juste place. Comme nous sommes dans la salle Henri de Lubac, je me suis dit que c'était bien de faire référence à lui. Dans le drame de l'humanisme athée, de Lubac rappelle que l'homme est poussière, certes, mais que pourtant il possède une vocation sublime parce qu'il est appelé. Appelé. La grandeur n'est pas en nous, mais devant nous, par le biais d'une transcendance qui nous appelle. La modernité a parfois voulu se libérer de Dieu pour conquérir la liberté, mais elle paye cher ce nouvel esclavage d'un enfermement sur elle-même. On a gardé la statue, on a enlevé le socle qui la soutenait. De même, Jacques Maritain, dans Humanisme intégral, disait que l'humanisme dépend d'une métaphysique, c'est-à-dire de quelque chose qui respire au-dessus du temps. On pourrait dire ici quelque chose qui plane au-dessus des eaux. Le naufrage décrit dans ce livre est aussi d'ordre métaphysique. Une humanité réduite à se regarder seule dans la glace face au drame du monde et ne peut que s'enfermer dans la culpabilité mortifère. Or, il y a le mal, un mystère qui nous dépasse. Et s'il y a un salut, il nous dépasse aussi et nous concerne tous. Comme le fait la tradition juive, l'opératrice symbolise le mal avec la mer. La mer, c'est le mal. Julien, son compagnon de garde, compare celle-ci avec le chaos du déluge et la figure du Léviathan. Les deux prennent conscience d'une réalité du mal, un mal global, mystérieux, qui, comme la mer, ne se repose jamais et semble toujours prêt à nous engloutir. Un mal dont nous sommes complices et dont les migrants noyés sont en quelque sorte les témoins, c'est-à-dire les martyrs. Alors, où peut se trouver le salut ? C'est la question posée avec force par ce livre. Qu'est-ce qu'être sauvé et de quoi ? J'ose citer saint Paul. Saint Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, ose dire que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi, du péché et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte ? Être libéré de la loi, c'est être libéré de l'image de perfection morale qui me rendrait digne d'être sauvé devant Dieu, pour croire que tout est grâce. Être libéré de la culpabilité qui finalement nous enfonce, pour être reconnu innocent ou au contraire pour reconnaître sa faute devant un autre qui est amour et pardon. Être libéré de la mort, c'est croire en la résurrection, c'est ne pas en rester à la crainte, mais agir. Agir en sachant qu'il faudra traverser la mort, que les épreuves ne nous seront pas épargnées, mais qu'elles n'auront pas le dernier mot. Être libéré du péché, c'est croire au pardon qui me révèle l'amour du Père et me libère de l'enfermement sur moi-même. Ce livre me parle de tout cela. En tout cas, c'est ce qu'il m'a donné à penser, et je vous remercie beaucoup pour votre livre.
Merci beaucoup, Véronique, Alain, Vincent.
Oui, merci. J'étais déjà un peu bouleversé, maintenant c'est... radicale. Je vais avoir beaucoup de mal à être à la hauteur de ces lectures. Et à dire vrai, tant mieux ou tant pis, parce que le roman, je l'ai écrit, donc voilà, c'est fait. J'ai plus à emporter la responsabilité non plus, d'une certaine manière. Mais je vais essayer de revenir sur un certain nombre, passer de la casquette du philosophe à celle du romancier, du romancier à celle du philosophe. C'est une acrobatie à laquelle je devrais être familiarisé, mais c'est pas tout à fait le cas. Je pense que ce que vous avez dit l'un et l'autre de ce roman et des motifs qu'il parcourt, je peux pas en dire mieux. C'est effectivement identifier tout ce qui m'a travaillé dans le travail de ce roman. Alors peut-être que le plus simple et j'allais dire le plus trivial, c'est de revenir un peu sur la manière dont j'ai pu l'écrire ou dont j'ai pu en sentir la nécessité, parce que ça va m'aider, même rhétoriquement, à revenir sur un certain nombre des questions ou des problèmes qui sont soulevés dans vos lectures respectives. Je vais revenir sur des circonstances qui sont extrêmement anecdotiques, c'est-à-dire la raison pour laquelle je me suis mis à écrire ce roman, dans une sorte d'urgence, et aussi par une sorte de contingence finalement assez dérisoire. Pour vous dire franchement la vérité, j'avais écrit un autre roman, j'étais en train de le terminer, ou plutôt j'étais en train de terminer la deuxième version de ce roman, qui était une espèce d'immonde pavé qui faisait plus de 1000 pages, qui était absolument indigeste, de l'avis aussi de mon éditeur, à qui je fais absolument toute confiance, sans aucune ironie. Donc j'étais un peu fatigué et un peu déçu. Et il se trouve qu'effectivement, comme probablement vous aussi, je suis tombé sur ce premier article du Monde qui signalait la mise en place d'une instruction judiciaire sur le chef de non-assistance à personne en danger, et racontant cette histoire. Bon, il se trouve que par d'autres biais, ces questions, la question des réfugiés et des migrants, mais pas complètement indifférente par ailleurs, dans mon activité aussi extra-professionnelle. Mais c'est pas ça qui m'a arrêté, parce que tout simplement j'avais pas envie de parler des migrants. Bon. J'ai toujours refusé de le faire et j'ai toujours échoué à le faire, à dire vrai. Je m'en sens toujours incapable et je dois même dire que ça me paraîtrait à la limite de l'indécence si j'essayais de le faire. Donc ça, j'en étais absolument persuadé. C'était en quelque sorte une espèce de point noir, de point aveugle autour duquel peut-être je pouvais tourner, mais qui me restait absolument impénétrable. Bon. Et or, précisément, c'est la position de l'opératrice en question, c'est son défaut de représentation ou d'imagination. Je vais y revenir un tout petit peu. Et c'est l'un des problèmes centraux, mais c'est aussi le problème de la littérature, ou plus précisément, c'est le socle même de la littérature, c'est-à-dire ce qui la rend possible, la capacité à produire fictivement des possibles. Bon. Quand j'ai lu ces articles, ou cet article d'abord, et comme vous l'avez évidemment indiqué, ce qui a retenu mon attention, comme j'imagine celle de tout le monde, c'est évidemment les faits eux-mêmes, c'est-à-dire tout simplement ce naufrage la mort de 27 personnes dans la Manche, les faits, c'est-à-dire aussi la responsabilité présumée d'un certain nombre de personnes impliquées dans le cross. Mais évidemment, ce qui a frappé tout le monde et ce qui m'a frappé d'effroi comme tout un chacun, ce sont les paroles. Bon, et c'est précisément quelque chose qui revient dans le roman, et c'est un fil qui me paraît essentiel, c'est que ce qu'on lui reproche, c'est pas seulement d'avoir fait ce qu'elle a fait, ou plutôt de ne pas avoir fait ce qu'elle aurait dû faire, c'est d'avoir parlé, c'est d'avoir dit ce qu'elle a dit. Bon. Et ces paroles sont, alors là, de son entière responsabilité. Bon. On peut, et je parcours un certain nombre de raisons qui pourraient justifier, je ne sais pas, mais en tout cas expliquer ou motiver son comportement, son attitude et son indécision ou sa volonté de ne pas prendre de décision en tous les cas. Il y a un certain nombre de raisons objectives qu'elle a invoquées ou qu'elle pourrait invoquer qui explique ses actes, et il y a un certain nombre de raisons qui impliquent non pas simplement sa responsabilité, mais la responsabilité de beaucoup de gens, et peut-être la responsabilité de tout le monde, j'y reviendrai évidemment. Et il me semble que l'invocation de ces raisons n'est pas toujours illégitime, justement. C'est pas simplement un moyen de se défausser, de faire partager une responsabilité qui est trop écrasante pour l'individu en question, mais c'est peut-être vrai aussi. Bon. Mais en revanche, les paroles qu'elle a prononcées, c'est bien elle qui les a prononcées. Bon. Et c'est évidemment ces paroles-là qui ont retenu mon attention, qui m'ont frappé, qui m'ont poussé à écrire ce roman, parce que tout simplement j'ai eu une réaction qui est extrêmement banale, qui consiste à me demander comment on peut dire des choses pareilles. Voilà. Non seulement comment on peut faire ça, ou ne pas faire ça, quand précisément c'est votre métier, c'est-à-dire de ne pas secourir quand votre métier est de secourir, de ne pas sauver quand votre métier est de sauver, mais comment on peut dire des choses semblables. Et c'est pour ça aussi que la question de la voix, j'y suis particulièrement sensible, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai bâti ce roman sur une restitution et une interrogation sur la voix, une restitution de l'oralité dans cette espèce de dialogue fictif qui est en réalité, vous l'avez évidemment noté, est un soliloque, hein, qui est vraiment une voix enfermée en elle-même, et je partage entièrement votre constat, c'est-à-dire que l'idée est évidemment celle d'une immanence radicale de la conscience à elle-même, d'un faux dialogue, d'une impossibilité, alors là pour le coup, de se sortir de la chambre de la conscience. Hein. Cette impossibilité d'entendre des voix, littéralement, cette impossibilité d'entendre une voix, et cette réponse froide qui témoigne de cette impossibilité à entendre, c'est précisément ça, le naufrage. Bon, c'est précisément ça qui fait qu'elle ne peut pas être sauvée comme elle ne peut pas sauver. Donc c'est cette voix qui m'a entraîné dans ce roman, mais j'ai été, évidemment, comme tout le monde, enclin immédiatement à prononcer un jugement moral. Je me souviens que j'en ai discuté avant même de... C'est mon éditeur qui m'a réellement incité à écrire ce roman. C'est à lui que, en fait, je dois la création de ce roman. Je ne saurais assez le remercier quand je lui ai parlé de cette histoire. C'était sous le coup d'un jugement moral immédiat, et d'un jugement qui par ailleurs est parfaitement, enfin que je pense assez légitime, et qui prenait la forme non seulement d'une condamnation, bon, voilà, c'est le mal. Je me souviens de lui avoir dit ça. Hein, voilà, c'est l'image du mal, peut-être de la banalité du mal, pas du mal monstrueux, mais du mal. Voilà, c'est ça l'image du mal, en tout cas du mal contemporain, c'est ça. Et puis évidemment, il faut se méfier de ce type de jugement, mais je me suis fié à la première exclamation qui m'est venue, c'est que, encore une fois, comment on peut dire des choses pareilles? Comment on peut dire des choses pareilles? Et j'ai pris au pied de la lettre cette interrogation, je l'ai transformée de l'interjection en interrogation, et j'ai tâché d'y répondre, tout simplement. Et le roman, c'est une tentative de répondre à cette question, qui est intrinsèquement morale, mais aussi exploratrice, c'est comment on peut dire, qui peut dire ça, qui peut dire, qui peut tenir ce genre de propos. Et c'est ça qui a fait naître le roman, c'est-à-dire la fiction, elle est destinée, c'est-à-dire la production, encore une fois, du possible, l'exploration du possible, elle est destinée à répondre à cette question-là, c'est-à-dire qui peut être le sujet d'une telle parole, comment on peut arriver à dire des choses pareilles, et en atténuant progressivement, et je dois vous dire que je ne suis pas sorti complètement indemne de l'écriture de ce roman, en atténuant progressivement la tonalité d'indignation qu'il y avait au départ dans cette exclamation « Quoi ? Comment ? On peut dire des choses pareilles, mais c'est scandaleux !» pour finalement avoir une espèce de tonalité neutre, froide, qui demande réellement comment on peut faire cela et dire cela. Et évidemment, l'idée porté par la fiction, c'est d'introduire au fur et à mesure le trouble dans le jugement moral, c'est-à-dire effectivement, c'est un roman moral, je ne vais pas le cacher, c'est tout sauf un roman moralisateur, c'est un roman qui prend au sérieux des dilemmes moraux, des problèmes moraux, mais qu'il fait au niveau du singulier, c'est la capacité de la littérature précisément par rapport à la philosophie. La capacité à restituer le singulier, et j'y suis particulièrement attaché. Mais à partir de cette singularité-là, c'est-à-dire bâtir un personnage qui est susceptible de faire cela et dire cela, et c'est comme ça que j'ai construit le personnage, c'est la raison aussi pour laquelle je n'ai pas cherché à m'en renseigner sur la personne effective, c'est la raison pour laquelle je me suis éloigné de plus en plus de la restitution des faits. La restitution des faits, c'est l'objet de l'instruction judiciaire, c'est l'objet, c'est la vocation du journalisme dans ce qu'il a de meilleur, s'il a quelque chose de bien. Mais c'est pas la vocation du romancier. En revanche, la vocation du romancier, c'est de construire justement ce personnage qui dit ça. Voilà. Et c'est ça que je voulais faire. Et évidemment, je m'en doutais un petit peu au début, et ça s'est confirmé au fur et à mesure, c'est que ce singulier, il n'est pas si singulier, justement. Il est à la fois, en tout cas, il n'est pas exceptionnel, c'est du singulier qui est n'importe qui. Voilà. Et cette opératrice, ce personnage principal, c'est n'importe qui. Voilà. C'est n'importe qui, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire n'importe qui d'entre nous, et n'importe qui d'entre nous est susceptible de tenir ses propos. Voilà. Et n'importe qui probablement les a déjà tenus en son fort intérieur ou au cours d'une conversation sur un coin de bistrot. Tout le monde a entendu ces paroles qui sont des paroles de bon sens, qui consistent à dire « mais je ne leur ai pas demandé de partir, on ne leur a pas demandé de partir au bout d'un moment ». C'est vrai qu'ils prennent leurs responsabilités. Après tout, ils ont choisi de se lancer dans une opération particulièrement risquée, et après, il faut les secourir. Mais d'abord, on ne peut pas tous les secourir, et puis ils auraient pu y réfléchir avant. Bon, voilà. Vous savez, il y a une chose qui m'a frappé après l'écriture du roman, à la publication du roman, j'ai été contacté par les avocats des victimes. Chose qui m'a un peu embarrassé évidemment sur le coup, tout simplement parce que je craignais d'être moi-même traîné en justice à cause de ce roman, même si j'avais toutes les garanties des services juridiques de Gallimard, on ne sait jamais. Mais les avocats m'ont contacté et c'était une expérience particulièrement intéressante. Ils avaient lu mon roman, ça leur avait plu. Et il voulait me raconter de l'intérieur cette histoire, et puis chose plus difficile à accepter, il voulait me faire entendre les enregistrements, parce que ce sont eux en fait qui ont, les avocats qui ont procédé à la retranscription intégrale de ces enregistrements. C'est une épreuve assez difficile à passer, mais l'une des premières choses qu'ils m'ont dit, à part le fait qu'ils se moquaient éperdument de la cause des migrants, que c'était pas ça qui les avait incités à se faire l'avocat des familles des victimes, la chose La première chose l'une des premières choses en tout cas qu'ils m'ont indiqué, donc à part cette profession de foi d'indifférence qui m'a frappé parce que je me suis dit mais en fait ce sont exactement les mêmes que celles que je décris dans mon roman, c'est-à-dire on a un boulot à faire. Alors l'une c'est sauver des gens, mais on va pas y mettre des états d'âme, des convictions, des sentiments, de l'empathie. Bah eux, les avocats des victimes, ils font exactement la même chose, parce que précisément, il faut pas être empathique, il faut pas avoir de convictions. C'est le principe même de l'efficacité, jusqu'à ce que ce principe d'efficacité se retourne lui-même contre la fin visée. Mais l'une des choses qui était aussi importante dans la discussion, mis à part le fait aussi que apparemment le portrait que j'avais dressé de cette femme était à peu près identique à ce qu'elle est réellement. Bon, c'est sujet évidemment à caution. C'est le fait que ils m'ont dit mais oui, nous, et puis je peux vous dire qu'effectivement, quand vous entendez les enregistrements, c'est terrifiant. Parce que c'est là pour le coup, c'est effectivement la voix ou les voix qu'on entend, et entendre sans voir, c'est encore pire, bien sûr. Et c'est alors là, pour le coup, c'est vraiment la vie nue qu'on entend. On est d'une certaine manière, c'est ce que dit mon personnage dans le roman, ce que vous avez cité, c'est que précisément ce qu'il faut éviter, c'est se faire capter par la voix. C'est ça le chant des sirènes. Si on veut faire preuve d'humour noir, mais c'est ça qui vous entraîne vers le fond. Et ça, je peux vous garantir que c'est effectivement le cas. Mais ils ont eu cette remarque, les avocats, ils ont eu cette remarque parfaitement triviale. C'est qu'ils m'ont dit, mais vous savez, si on mettait un micro et si on nous enregistrait dans notre cabinet d'avocat, discutant de tel ou tel problème, on entendrait exactement les mêmes choses. Si on enregistrait les propos des chirurgiens au bloc opératoire devant des cas soit tragiques, soit désespérés, effrayants, ben c'est exactement les mêmes propos qu'on entendrait. Bon. Tout simplement, c'est trop bien parce que justement, il faut se tenir à distance. Bon. Et il faut précisément se défendre contre un certain type d'empathie. Et si je dis ça, c'est d'une part parce que oui, ça m'a paru parfaitement légitime. C'est effectivement la voix de tout le monde ou la voix que tout le monde pourrait avoir dans de telles circonstances. Mais c'est aussi parce que ça m'a, et tout le roman est bâti là-dessus, ça m'a incité à poser l'une des questions centrales, c'est-à-dire la distance. C'est-à-dire tout le roman est bâti sur la position de ce personnage. C'est-à-dire le construire, ça signifie aussi le situer. Bon. Ou plus précisément, il est construit par position. Ce qu'est ce personnage, c'est celui qui se tient sur le rivage. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en épigraphe le vers de Lucrèce « Sois où est Marie Magno ?» Cette métaphore du naufrage avec spectateur, c'est en fait ça le fil conducteur de mon roman. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de naufrage sans spectateur. Et le spectateur, c'est-à-dire même nous, sans voir, ou sans vouloir voir, nous sommes spectateurs aveugles à distance du naufrage. C'est ce qu'elle dit, elle n'est pas toute seule sur ce rivage, nous y sommes tous. Nous sommes tous au spectacle. Et cette métaphore du naufrage avec spectateur, je l'ai tirée d'une œuvre philosophique d'un auteur qui est pour moi un auteur central, c'est Hans Blumenberg, qui est un auteur essentiel en philosophie contemporaine pour moi et qui a fait un livre absolument remarquable qui s'appelle « Naufrage avec spectateur » et qui, partant justement de l'image de Lucrèce, entre autres, essaie de faire l'histoire dans la conscience occidentale et dans l'histoire de la philosophie en particulier, mais pas seulement, l'histoire de cette image, de cette représentation et montrer toutes les, j'allais dire, les connotations variées qu'on peut lui attribuer. Alors que vous savez qu'originellement, cette image, elle est destinée tout simplement à établir la position du sage face au naufrage suscité par les passions. Celui qui se tient sur le rivage et qui regarde avec contentement le spectacle terrible du naufrage, c'est pas le monstre, c'est pas le représentant du mal, c'est exactement l'inverse. C'est le philosophe, c'est le sage, celui qui est spectateur du naufrage, qui se tient sur le rivage, c'est le philosophe, c'est le sage. Tout le malheur du monde tient à ce qu'on s'embarque. Si on restait commodément à l'abri des passions dont le naufrage est le produit, ou qui sont la cause du naufrage, eh bien tout irait bien. Et donc à cette image du naufrage avec spectateur, que j'ai voulu travailler vraiment dans tous les sens, s'est ajoutée cette, oui, ce que vous avez souligné, cette perspective pascalienne qui pour moi est absolument essentielle. C'est la raison pour laquelle, c'est ma deuxième citation en épigraphe, vous êtes embarqué. Et c'est la raison pour laquelle aussi Pascal est instrumentalisé au cours du roman par une espèce de torsion cynique de la signification donnée par Pascal à cette fameuse phrase « Tout le malheur du monde tient à ce que l'homme ne peut pas demeurer en repos dans sa chambre. Bon. » J'indique simplement que, parce que c'est revenu au cours de vos lectures, et puis après peut-être qu'on peut rentrer davantage dans le détail ou pas, et en discuter évidemment avec la salle, avec vous, que ce qu'il y a de pascalien dans ce roman, et j'espère que tout est pascalien d'une certaine manière dans ce roman, y compris, vous avez fait allusion au discours sur la condition des grands, trois discours sur la condition des grands, avec cette image si essentielle dans ce texte, cette fiction du roi échoué, ou plus précisément du naufragé échoué sur une île déserte qui est pris et qui devient le roi des habitants de cette île qui ont perdu leur roi. Il y a une magnifique interprétation, comme vous le savez peut-être, de Louis Marin sur ce texte de Pascal, et que j'avais en tête en permanence et que j'ai retranscrit effectivement sous une forme onirique dans le roman, dans la troisième partie du roman. Mais s'il y a quelque chose de, et encore une fois, tout est nourri de Pascal, s'il y a quelque chose de franchement pascalien, c'est en tous les cas, ou qui est franchement pascalienne dans les motivations qui ont présidé à l'écriture de ce roman, c'est vraiment le désespérer franchement. C'est vraiment l'idée de désespérer franchement. Donc effectivement, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption. Effectivement, c'est très grandiloquent de le dire comme ça, et j'ai essayé de le faire à petite échelle justement. Effectivement, c'est l'absence radicale de rédemption, l'incapacité à sauver, à se sauver et à être sauvé. L'incapacité, et je suis très sensible, même si, bon, on peut en discuter, mais je suis très sensible à ce que vous avez souligné à la fin sur le lien que vous faites entre cette absence radicale de rédemption qui est le cœur de mon roman. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti de la dernière phrase, « Tu ne seras pas sauvé ». Et c'est la raison pour laquelle cette phrase-là est en fait le cœur du roman. Et pas simplement la dernière phrase, mais je suis très sensible à l'articulation que vous faites entre cette absence totale de rédemption et cette absence de voie extérieure. cette absence d'extériorité même. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu rendre ce roman le plus étouffant possible, évidemment, précisément pas simplement pour cette conscience enfermée, ressassant de manière morbide une culpabilité qui est effective, une responsabilité qui est effective, qui est certes partagée, mais qui est effective. Personne n'est sauvé, évidemment, dans cette histoire. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai bâti ce roman comme je l'ai bâti. Je l'ai construit en trois parties et je terminerai là-dessus parce que je sens que je lasse beaucoup votre patience. C'est la raison pour laquelle je l'ai bâti en trois parties. La première partie, il y a une partie centrale qui est à la description du naufrage lui-même, bon, qui est à la troisième personne et dont vous avez souligné, j'en laisse l'ambiguïté, dont on ne sait pas si c'est ce qu'elle est amenée à se représenter ou si c'est effectivement le point de vue d'un narrateur objectif, distancié, le terme est pas très bien choisi, puisque précisément ce que j'ai voulu faire, c'est un récit au ras de l'eau, là pour le coup, vraiment au ras de l'eau, absolument dénué de pathos, de lyrisme, absolument dénué d'effets rhétoriques, mais de produire tout simplement la vision de ce que c'est que mettre 4 heures à se noyer, voilà, parce que c'est ce qui s'est passé en réalité. Mais cela constitue le centre effectif du roman, c'est un chapitre très court, une partie très courte, qui m'a demandé énormément de difficultés, qui m'a causé énormément de difficultés à écrire, que j'ai réécrit beaucoup, contrairement aux deux autres parties qui encadrent le roman, et qui est la première partie un dialogue, et la troisième partie, un monologue, ou plutôt la manière dont le dialogue progressivement est absorbé dans cette parole monologale ou soliloquale, et dont on se rend compte effectivement que il s'agissait d'un faux dialogue, voilà, et qu'il n'y avait pas d'extériorité. Et ça m'était beaucoup plus facile à écrire. Alors je ne sais pas ce que ça dit de ma propre conscience morale. À dire vrai, je veux pas le savoir parce que c'est assez inquiétant, mais j'ai eu, je dois le dire, une affreuse facilité, je vais pas dire un plaisir pervers, à me couler dans cette voix et dans ce personnage. Ce qui est horrible, c'est de s'apercevoir que c'est très facile de produire un discours pareil. Il suffit de se laisser aller et de l'écrire continuellement. Ce que j'ai fait, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le roman très très vite, très très rapidement, parce que c'est une parole continue, c'est un flux continu, et c'est malheureusement parfaitement naturel de l'écrire comme je l'ai écrit, ou du moins c'est de manière effrayante, c'est facile de produire ce type de discours. Bon, la partie centrale, et je termine vraiment là-dessus, la partie centrale, c'est le cœur du roman, parce que tout le problème, comme je le disais tout à l'heure, tout le problème, c'est l'incapacité qu'a ce personnage à se représenter. C'est son manque d'imagination, et comme nous le savons tous, l'imagination, c'est une faculté morale. L'absence d'empathie, ou le problème de l'empathie, c'est d'abord un problème d'imagination, c'est-à-dire tout simplement imaginer la souffrance, c'est-à-dire la possibilité par imagination de se transposer dans l'autre. C'est une faculté romanesque, tout simplement. C'est une faculté romanesque. C'est exactement ce que j'ai tâché de faire en construisant ce personnage. Se transposer dans l'autre. C'est le cœur même de l'empathie. Bon. Ça signifie pas que ça règle tous les problèmes, que l'imagination est susceptible de pallier ce défaut moral radical que j'ai essayé de travailler dans ce roman, mais ça montre, à contrario, que l'absence de représentation ou l'incapacité à se représenter est le véritable problème. Mais c'est un problème extrêmement ambivalent, parce que la représentation, c'est aussi un spectacle. La représentation ou l'image, c'est aussi justement un spectacle dont nous sommes les spectateurs. Et tout tournait autour de cette difficulté. Se représenter, mais l'image est aussi à distance. Comment se représenter cela ? et la capacité à se représenter, la bonne distance, ça aussi c'est pascalien, il y a un point. Vous savez, ni trop près, ni trop loin. L'exemple de Pascal, c'est le point de fuite dans le tableau, ou la bonne lecture, ni trop rapide, ni trop lente. C'est l'obsession de Pascal, ce point qui est le point de la morale et du salut. Ce point exactement où on est à bonne distance, où le tableau est lisible, pour parler comme Louis Marin, ou visible. Bon. La difficulté à trouver ce point, c'est toute la difficulté de mon personnage. Et ce point, c'est l'humanité. Ce point-là, c'est exactement le site impossible d'une humanité rédimée, d'une humanité sauvée. Bon. Moi, je m'en suis tenu, dans le roman, à l'impossibilité de le trouver, ce point. Et la partie centrale ne règle pas ce problème. Voilà. Mais merci encore, j'ai absolument pas dit ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, j'ai dit autre chose.
Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, est-ce que vous avez des questions ou des réactions ou des remarques? Oui, monsieur.
Alors, il n'y a pas de... Il n'y a donc pas de... auquel le mal serait... Mais alors... Est-ce que... Parfois, la même attitude que le...
Oui. Oui, oui, absolument. Absolument. Et c'est, pour moi, je l'écris comme ça, c'est-à-dire, c'est. Je suis kierkegaardien en plus. Donc, enfin, je l'ai été en tout cas. Faut aller au bout du désespoir, je pense. Il faut aller au bout du désespoir.
Bon.
Il faut désespérer, franchement. C'est-à-dire qu'il faut. Enfin, j'ai pas de leçon à donner, du reste, et c'est certainement pas l'ambition de ce roman d'en donner. Tout ce que je voulais introduire, c'est un trouble dans le jugement. Voilà, un trouble. Bon. Mais ce à quoi m'a poussé l'écriture, c'est effectivement à la radicalité d'une situation qui est proprement désespérée. Qui est proprement désespérée, certes, pour les naufragés, mais désespérée pour tous ceux qui les entourent. Et c'est pas simplement dû à une absence d'empathie. On citait Hannah Arendt tout à l'heure et à ce fameux syntagme de la banalité du monde, du mal, pardon. Il y a une autre chose chez Arendt qui m'intéresse, c'est sa critique dans l'essai sur la Révolution, sa critique de la politique de la pitié. Et elle a des mots extrêmement durs. Sur la notion de politique de la pitié, justement, qui lui paraît, peut-être à juste titre, être l'un des ferments du mal contemporain et des monstruosités de l'histoire du XXe siècle. Par paradoxe, cette fameuse politique de la pitié, c'est précisément ce qui arme les gens. Bon. Et donc, encore une fois, l'idée que le problème ici, c'est simplement le fait qu'elle n'ait pas de pitié, qu'elle soit sans empathie, c'est un problème lui aussi trop simple. Lui aussi trop simple, ou plutôt, l'inverse n'est pas vrai, c'est pas avec de l'empathie qu'on fait de la politique aussi. Bon. Oui. Mais précisément, c'est sans issue, voilà. Encore une fois, et encore une fois, la question de l'empathie se pose parce que c'est une question de distance. Bon. L'autre référence, si on peut dire, c'est un livre sur lequel j'ai un peu travaillé d'ailleurs l'année dernière à l'EPHE. Bon, en tout cas, c'est le livre de Boltanski sur la souffrance à distance, hein, qui est un livre de sociologue, hein, mais qui fait référence justement à la politique de la pitié chez Arendt, mais qui interroge ce qu'il appelle, oui, le, la souffrance à distance, c'est-à-dire le spectacle de la souffrance, pas nécessairement pour pousser les hauts cris en disant voilà l'indifférence contemporaine, voilà l'homme contemporain saturé d'images, indifférent, mais pour poser une véritable question, c'est-à-dire précisément quelle politique on peut tirer de la juste distance à l'égard de la souffrance. Et ça, c'est un problème qui me travaille effectivement. Donc l'absence de rédemption, pour revenir à ça, c'est tout simplement, si je puis dire, pour déblayer le terrain. Voilà. Il a aucune vocation philosophique, mon livre. Hein. Si je voulais écrire un livre de philosophie, j'écrirais un livre de philosophie. Si je voulais écrire un pamphlet contre la politique du droit d'asile, c'est pas l'envie qui m'en manque du reste. Enfin, la politique de la restriction du droit d'asile ou contre les politiques migratoires, je l'aurais fait. Et c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, je vais vous le dire franchement, d'une certaine manière, c'était pas la condition de migrant qui m'intéressait. C'était pas le drame des migrants. D'ailleurs, j'aime pas ce vocable parce qu'encore une fois, ça fait référence au spectacle. On n'est pas au spectacle. C'est pas un drame qu'on joue sur une scène. Hein. C'est la vie. Bon, c'est la vie nulle, là, en l'occurrence. Mais j'avais pas envie. D'abord parce que j'en ai peut-être pas les moyens, mais j'avais pas envie de parler de la condition d'exilé, j'avais pas du tout envie de romancer la vie de ces migrants. Alors là, pour le coup, ça m'aurait paru parfaitement indécent. J'ai pas envie d'en faire un tire-larme en disant mais regardez les pauvres. Non, j'avais envie précisément de me mettre dans la peau de, c'est-à-dire de rester dans la mienne de celui qui est spectateur du naufrage. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'épouser cette position exacte. Et cette position exacte, pour moi, la position de l'opératrice, à ce moment-là, hein, parce que à ce moment-là, à cet instant-là, c'est une position dans laquelle il n'y a de salut pour personne. C'est la nuit absolue.
On va peut-être prendre une autre. Pardon, monsieur, on va prendre une autre question. Monsieur qui est là. Vous avez une question?
Vous avez reçu un retour de. Est-ce que vous avez eu d'autres?
Oui. Oui, absolument. Et alors, vous avez fait allusion à quelque chose qui m'a énormément travaillé et qui continue à me travailler. C'est la question de savoir si la personne en question lira ou a lu ce livre, étant entendu que je ne sais rien d'elle que ce que en a dit la presse. Et puis un certain nombre de choses que m'ont dit les avocats de sa situation, et surtout le fait que c'est un bouc émissaire commode et que c'est vraiment la lampiste là en l'occurrence, hein, c'est elle qui a été désignée, y compris par la hiérarchie militaire pour porter le chapeau, hein, alors que bon, concrètement elle ne peut pas avoir pris cette décision toute seule ou cette absence de décision toute seule. Il y a une chaîne de commandement, il y a des procédures hiérarchiques. Elle ne peut pas porter seule cette responsabilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a 7 personnes qui sont quand même mises en examen. Mais bon, je laisse de côté cela. Mais effectivement, et ça continue de me travailler, parce qu'il y a une responsabilité dans l'écriture d'un roman. Voilà. C'est quelque chose qui me dérange, pour tout dire. J'ai pas de réponse à ça. En revanche, des réactions des lecteurs, oui, j'en ai eu beaucoup. Et puis je continue d'en avoir parce que je suis obligé de subir le barnum des prix littéraires et des rencontres. Et ce qui m'a frappé, c'est l'extrême variété des interprétations concernant le personnage en question. J'ai reçu, dans les lettres que j'ai reçues, dans les courriers, dans les échanges, des interprétations diamétralement opposées les unes les autres. Voilà. Il y a à peu près tout le spectre. C'est-à-dire que le roman est fait pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement final. Enfin, s'il y a un jugement final. Mais je reçois des lettres qui me disent « Bon, vous avez bien montré que c'était abominable, c'était un monstre. » Alors je me dis, c'est bizarre, j'ai écrit l'inverse, mais apparemment, ce qui ressort de cette écriture, c'est que c'est vraiment le portrait d'un monstre. Et d'autres, elle a toutes les excuses du monde, il faut arrêter d'accabler cette pauvre femme qui aime bien sa petite fille, il faut en tenir compte, etc. etc. Bref, dissout progressivement sa propre responsabilité. Donc il y a toute cette partie de réaction. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des réactions qui tirent le débat davantage soit sur les questions de politique migratoire, sur la question des réfugiés, tout simplement, et qui entraînent des débats parfois un peu vifs, un peu véhéments, soit des débats de fond sur la question de la responsabilité morale, du choix et du bien et du mal. Je vous citerai juste une anecdote dans le cadre de... Il y a un concours des détenus. Donc je suis dans la sélection du concours des détenus, et donc ça m'amène à aller parler de mon roman En prison. Je l'ai fait la semaine dernière à la prison de la santé, à la maison d'arrêt de la santé. Et je dois avouer que la discussion, qui a duré 3 heures quand même, la discussion avec les détenus m'a profondément bouleversé, précisément parce que d'abord, la parole des détenus est une parole qui a une certaine épaisseur, il faut bien le dire, mais parce qu'ils se sont saisis des enjeux moraux immédiats, c'est-à-dire la question de la culpabilité, la question de la limite entre l'innocence et le délit, la question tout simplement de ce que c'est que faire le mal. Bon, il y a un moment donné où, et ça c'est très important dans mon roman, où elle dit mais entre mal faire et faire le mal, finalement il y a très très peu de différence, et je passe de l'incompétence supposée à la volonté maligne. Ça c'était des chose qui résonnait énormément dans la parole des détenus. Et de ce point de vue-là, je dois avouer que c'était une expérience assez profonde et bouleversante.
Est-ce que vous avez des témoignages? Les avocats les citer en disant...
Oui. Oui, absolument. Oui, absolument. Et d'autant plus que, en fait, là, pour le coup, vis-à-vis du monde de la santé, j'avais des contacts antérieurs parce que, je participe à des groupes de travail. À l'assistance publique et à la chaire philosophie et soins qui a été mise en place par l'école normale supérieure. J'ai des contacts. Et c'est une question dont on parle régulièrement, justement. C'est-à-dire, là, encore une fois, c'est très banal, sur la bonne distance à tenir pour exercer correctement ce qu'on appelle le soin, c'est-à-dire prendre soin de... Voilà, et sur le paradoxe qui est que pour prendre soin correctement de quelqu'un, on doit d'abord s'en détacher. Voilà, parce que sinon on n'est pas efficace. Bon, c'est les mêmes problèmes qui se posent. Voilà, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Et depuis, on en a rediscuté à l'occasion de mon roman. Oui. Voilà, ils m'ont confirmé qu'effectivement, si on mettait un micro, c'est pas simplement qu'il y a l'habitude de pratiquer la blague de carabin, mais que c'est une espèce de réflexe vital, simplement, de réflexe vital.
Il y avait d'autres questions, oui, monsieur.
Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le roman, il procède originellement d'une suspension du jugement. C'est vraiment l'époque, là, pour le coup, mais l'époque morale. La condition nécessaire à la fiction, c'est la suspension du jugement. Sinon, j'aurais écrit un roman à thèse, ou j'espère ne pas avoir écrit un roman à thèse, parce que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et la question, c'est, encore une fois, si vous voulez, il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut être détaché pour être efficace, et le détachement, au bout d'un moment, vous rend inefficace. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, là, en l'occurrence. Bon, indépendamment d'un certain nombre d'autres faits sur lesquels on n'est pas revenu et qui sont quand même assez accablants dans cette histoire. Mais cette distance supposée comme condition nécessaire du professionnalisme. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'elle est légitime. Et encore une fois, les arguments qu'emploie l'opératrice sont tout à fait recevables. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu introduire du trouble, c'est qu'on peut souvent lui donner raison. Alors comment se fait-il qu'elle finisse par avoir tort? C'est-à-dire que l'accumulation des raisons, enfin ça c'est bien connu en philosophie, mais l'accumulation des raisons finit par produire la conclusion exactement inverse de celle qu'on voulait. Là, en l'occurrence, il faut être détaché pour sauver les gens. Vous êtes tellement détaché que vous les laissez périr. C'est quoi ce mystère? Qu'est-ce qui se passe ici? Et en l'occurrence, il y a juste une chose très 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 brève. Moi, j'ai voulu saisir le moment. C'est le centre du roman, hein, avec cette description. J'ai voulu saisir le moment où on doit décider, C'est-à-dire, c'est presque Kierkegaardien de ce point de vue-là, là, il faut décider. C'est-à-dire, la situation, c'est ce qu'on appelle une situation limite, c'est que vous pouvez accumuler autant de raisons que vous voulez, autant de justifications que vous voulez, vous sauvez ou vous sauvez pas. C'est la situation limite, c'est la vie, la mort. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai voulu saisir le problème. C'est-à-dire, encore une fois, au cœur de la nuit, au moment où nous sommes face à une décision qui implique la vie ou la mort. Voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est un autre nom de la crise, d'ailleurs.
Oui, exactement.
C'est le nom antique de la crise, décider. Ce qui va décider de la vie ou de la mort, selon ce qui va se passer. Je voulais juste faire un écho à ce que vous dites juste à la présent sur l'empathie et la distance. Moi, je trouve de fait la question de la juste distance, ou la juste place. Enfin, comment chacun peut trouver sa juste place et pas la place de l'autre ou de celui que j'aurais aimé être ou de celui qui sera responsable. Et de fait, la référence à Pascal se comprend dans ce sens-là, oui, bien sûr. Mais c'est aussi que, pour être efficace, il faut aussi de l'empathie. Vous l'avez dit. C'est-à-dire on voit bien la question des infirmières aujourd'hui, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure. Elles sont obligées de faire des actes à répétition parce que on a comptabilisé les actes pour le financement des hôpitaux, mais elles disent on n'a plus le temps de voir les gens, et du coup, ça déshumanise notre travail. Et d'une certaine façon, on n'est plus efficace. Et, ouais. Parce qu'elles sont elles-mêmes démotivées, démobilisées. Donc s'il n'y a pas d'empathie, ça ne marche pas. Et s'il y en a trop, ça ne marche pas non plus.
Ouais.
Mais il en faut.
Oui, c'est exactement ce dont je discute, là, à quoi je faisais allusion, sur la politique du soin et sur la nature du soin. C'est, on discute autour de ça, justement, de cette... difficulté à trouver la juste place. En revanche, et ce sur quoi j'ai insisté dans la troisième partie du roman, parce que, et j'y ai déjà fait allusion d'une autre manière avec cette capacité morale d'imagination, il y a la question de savoir quelle est la juste place, le point exact qui est celui qu'on doit occuper pour à la fois nous sauver et sauver l'autre. Mais il y a aussi cette difficulté, à, tout bêtement, à se mettre à la place de l'autre. Et j'ai voulu insister, y compris en prenant littéralement l'expression et en la poussant jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au scandale, c'est l'idée qu'il y a une interchangeabilité des positions, où elle finit par se poser la question de cette interchangeabilité des positions. Si elle est à sa place, c'est parce que eux, c'est-à-dire les naufragés, sont à la leur. C'est-à-dire, si elle est sur le rivage, c'est pas simplement qu'elle est sur le rivage, au sec, en sécurité, et eux qui se noient, c'est que si elle est au sec et en sécurité, c'est parce qu'ils se noient. C'est-à-dire qu'ils sont à sa place et elle est à la leur. C'est-à-dire qu'ils meurent pour qu'elle puisse vivre. Et ça, c'est une... Voilà. C'est une pensée scandaleuse, mais qui m'obsède. C'est-à-dire, et depuis longtemps, c'est-à-dire cette espèce d'économie, vraiment au sens strict du terme, effroyable de la vie. C'est-à-dire, il faut que certains meurent pour que d'autres vivent. Ben, il faut envisager cette économie effrayante. Voilà. Que notre vie a pour condition la mort des autres. Ou qu'on peut envisager cette hypothèse. En tout cas, c'est ce qu'elle fait.
Mais dans la posture morale que vous décrivez, là, le transfert en imagination sur la place de l'autre, alors c'est Ricoeur qui dit, hein, c'est transfert en imagination et en sympathie.
Et en sympathie, oui.
Il faut les deux.
Ouais.
Et en même temps, la place de l'autre est insubstituable. C'est-à-dire, c'est pas, on ne peut pas la remplacer. C'est vraiment dans l'imaginaire qu'on est à la place de l'autre.
Ouais.
Et du coup, chacun reste à sa place quand même.
Oui, mais justement, je me suis posé la question, ou plus précisément l'opératrice se pose la question, et si c'était effectivement, encore une fois, qu'est-ce qui se passerait si on entendait littéralement ce type de principe ou ce type de présupposition ? C'est qu'on occupe, enfin ça vient pas de moi, mais on le trouve chez Lévinas, du reste, c'est qu'on occupe la place de l'autre. C'est qu'on occupe la place de l'autre. Et c'est, il y a un aphorisme d'Elias Canetti qui m'a toujours glacé le sang, mais et si chacun de tes souffles était celui de l'autre mourant ? Voilà. L'air que nous respirons est un air expiré par d'autres. Voilà. C'est ça aussi qui obsède la conscience finale, terminale de cette opératrice. Si on veut pousser la responsabilité jusqu'au bout, c'est exactement ce qui se passe chez Lévinas, hein, au bout d'un moment, dans sa radicalité éthique. C'est précisément le principe de la substitution, de l'otage.
C'est là où ils ne sont pas d'accord, d'ailleurs, avec...
Avec Ricoeur. Eh oui, bien sûr. Parce que c'est une pensée scandaleuse. Parce que c'est une pensée scandaleuse.
On est pris en otage, quoi.
Ouais. Écoutez, la tragédie des migrants me rapporte énormément d'argent. Voilà, j'ai fait. Non, oui, ça marche bien. Oui, c'est important. Alors, oui. Non, mais vous avez tout à fait raison. Et puis, je serais bien hypocrite de considérer que finalement tout ça, ce sont des considérations secondaires. Quand on écrit, c'est pour être publié et c'est pour que le livre soit lu. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ces questions sont importantes. Et que bah, je peux être plutôt satisfait de la réception de ce livre, mais aussi assez frappé par un certain embarras. D'un certain nombre de critiques qui le disent à l'oral, mais qui ne l'écriront pas, concernant ce livre.
Et de...
Bah oui,
Oui, La Croix parlait de moi. Il y a un très bel article, oui, dans La Croix, oui, par exemple. Eh ben oui, un peu partout, c'est ça va, quoi. Bon, c'est. Mais je vous dis, ce qui est plus intéressant, c'est des critiques que je connais bien au Monde ou au Nouvel Obs, par exemple. Qui me disent que ça les dérange. Voilà, qu'il y a. Parce que bon, il aurait fallu que je dise que c'est une tragédie et que c'est scandaleux et que ce que je pense par ailleurs, hein, mais ce roman-là porte pas là-dessus. Et ça, c'est déplaisant. En discutant avec les lycéens il y a deux jours, il y en a un qui m'a dit mais vous pensez pas que ce livre va faire finalement le miel de l'extrême droite? Je dois avouer que j'étais assez surpris, mais pas tant que ça, en fait. Oui, bon, moi je suis persuadé que les effets sont plutôt inverses, à dire vrai, mais que oui, il y a un certain nombre d'arguments, de raisons que j'indique dans le roman, que je place dans la bouche de l'opératrice, qui pourrait très bien servir de. Oui, d'argumentaire contre les migrants. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça qui m'intéressait, en tous les cas. Et encore une fois, si j'avais voulu faire un pamphlet politique sur la condition des migrants, je l'aurais fait. C'était pas ça qui m'intéressait. Hein. C'était notre condition qui m'intéressait.
Oui, monsieur.
Si, absolument. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est absolument. Vous avez entièrement raison. Je suis un partisan de la moralité objective. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs. Il faut des institutions justes et des institutions, pour reprendre la formule de Ricoeur, il faut des institutions justes et l'institution judiciaire, c'est le garant effectif contre le naufrage, ça c'est sûr. Et que moi, ce que j'ai voulu, c'est plonger dans le magma de la conscience qui se débat, mais que d'une certaine manière... Encore une fois, la moralité objective, c'est le seul garant. Et j'en ai discuté justement avec les avocats des victimes. Ils étaient très frappés par une chose, frappés, c'est-à-dire presque choqués. C'est quand ils ont été contactés via une association qui s'occupe des réfugiés à Calais, quand ils ont été contactés pour prendre en charge la plainte des familles des victimes, eh bien, ils ont été stupéfaits de savoir que les victimes, enfin les parents des victimes, ne réclamaient aucune indemnité. Ils ne demandent pas d'argent. Parce qu'ils s'attendaient... Alors d'abord, ils étaient déçus parce qu'en général, les avocats touchent un pourcentage sur les indemnités qu'on peut obtenir. Alors là, évidemment, ils étaient déçus, mais ils étaient surtout extrêmement surpris que ce soit pas une affaire d'argent, que ce soit une affaire de justice ou plutôt une affaire de droit. Même pas de morale, mais une question judiciaire. Une question purement judiciaire, c'est-à-dire s'en remettre à l'institution judiciaire pour établir les responsabilités, la nature du délit et la juste sanction. C'est tout ce qu'ils réclament. Voilà. Et je pense que vous avez entièrement raison de ce point de vue-là. Mais précisément, mon roman s'arrête avant. Voilà. C'est-à-dire, moi, ce sur quoi je me suis focalisé, c'est cette conscience qui se débat, voilà, dans la nuit. Après, c'est le hors-texte, justement. C'est-à-dire, notamment, le procès qui aura lieu dans 2 ans. Oui. Oui. Et de preuve de quoi? Non. Pas du. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Cette parole la condamne à nos yeux. Elle est insupportable à entendre, mais aux yeux de la justice, bon, c'est accablant, c'est une circonstance accablante, mais ça décide absolument pas de la nature de sa responsabilité. Elle n'aurait pas dû tenir ses propos. Mais qui dit ça? C'est un jugement moral, c'est pas un jugement judiciaire, si je puis dire. Elle ne sera pas incriminée pour ses propos. C'est ça qui est important.
Sa mission, c'est de sauver les gens.
Elle ne l'a pas fait, ou elle...
Ouais,
mais c'est la raison pour laquelle, je vous disais... Alors, en fait, il y a une affaire dans l'affaire, puisque au moment où ça s'est produit, le ministre a déclaré qu'il y aurait qu'il allait diligenter une enquête interne pour manquement, justement. Bon, il se trouve que cette enquête n'a jamais été diligentée. Bon, voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a une nouvelle affaire dans l'affaire et qu'on a tâché d'étouffer en interne cette histoire. Mais ce sur quoi va se prononcer la justice, c'est sa responsabilité dans ce naufrage. Mais cette responsabilité, elle est absolument pas prouvée. Elle est pas du tout évidente. Et en tout cas, elle ne doit pas être assumée seule, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une chaîne hiérarchique, il y a des procédures qui font que ce n'est pas elle qui a pris. Alors, bon, dans les enregistrements par ailleurs, il y a des choses plus accablantes que les paroles que j'ai retenues. C'est-à-dire, on la soupçonne effectivement d'avoir menti à un moment donné. Et ça, effectivement, c'est l'établissement des faits qui va le montrer. Quand elle dit aux Britanniques, parce que les Britanniques lui disent oui, effectivement, nous dépêchons un patrouilleur pour venir en aide aux migrants qui sont passés dans les eaux territoriales anglaises, mais nous sommes loin, vous avez un patrouilleur qui est à 20 minutes de là, envoyez le patrouilleur qui ira plus vite. Et elle répond: ah non, désolé, il est occupé à une autre mission, nous ne pouvons pas l'envoyer. Bon. Là aussi, c'est dans les enregistrements. Or, de cette mission, on ne trouve trace nulle part. Il n'y en avait pas, en fait. Bon. Bon voilà, peut-être qu'on lui a suggéré de lui dire bon, laisse les barboter, en attendant que peut-être qu'elle a tout simplement pas pris la mesure de ce qui se passait. Quant à dire, comme on l'a dit au début, que en fait, ce qui est la cause de ce naufrage, c'est tout simplement qu'elle a jugé que, bah, à partir du moment où ils étaient dans les eaux anglaises, ils appartenaient, si je puis dire, eux qui n'ont pas de nationalité, ils étaient plutôt anglais que français. Et que c'était du ressort des Anglais, bon, c'est une raison qui est fragile, hein, parce qu'il y a des accords tout simplement entre les services maritimes britanniques et les services maritimes français qui fait que bah, le plus proche vient secourir. C'est aussi simple que ça, et puis c'est tout simplement une loi maritime. Il y a d'autres faits qui peuvent être accablants, mais en revanche, son indifférence, le cynisme ou l'irritation dont elle fait preuve dans ces enregistrements-là, la justice ne statuera pas là-dessus. Hein, alors, bon, peut-être que ça va pas mettre les juges dans de bonnes dispositions à l'égard de cette personne. Ça, certes, oui. Mais encore une fois, on peut toujours arguer du fait que c'est des propos d'une effroyable banalité aussi.
Et quelle image ça donne de l'armée française?
Ça, là encore, je me garderai d'en juger. C'est pas mon propos. Mais vraiment, pour terminer avec ça, l'élément déclencheur et de mon roman, c'est cette phrase. C'est « Tu ne seras pas sauvé ». C'est cette phrase qui a déclenché le roman. Tout simplement parce que c'est une phrase qui est réversible. Et c'est ça qui m'a voilà, secoué, parce que bah, il arrive des fois où on est jugé par nos propres paroles, et c'est exactement ce qu'elle fait, parce que bah, t'entends pas, tu seras pas sauvé, c'est exactement ce qu'on aurait pu lui dire, c'est exactement ce qu'on devrait lui dire. Bah, t'as pas entendu, tu seras pas sauvé. Voilà. Tu veux pas entendre, tu n'as pas la possibilité, t'es dans l'incapacité d'entendre les supplications, d'entendre les cris, d'entendre la voix de l'humanité, bah tu seras pas sauvé.
C'était peut-être même un fait. Elle le dit, c'est un constat.
Oui, c'est un constat.
À la limite, c'est un constat. C'est ce qui arrive.
Oui, absolument.
Je vous propose qu'on s'arrête là. On ne voudrait pas abuser ni de votre temps, ni de la générosité de Vincent, de
Véronique beaucoup.
Et Alain. Merci infiniment.
Merci.
Et très bonne soirée.